Deutsche Welle. Vue d'Allemagne.
Guten Tag, bonjour à tous. Cette semaine dans Vue d'Allemagne, un reportage au Liban sur une école d'agriculture biologique qui forme des réfugiés syriens. Mais d'abord, on va bien sûr s'intéresser aux résultats des législatives en Allemagne et à un rapport présenté par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU et qui s'inquiète de la situation des Africains vivant en Allemagne. Au micro, c'est Constance von Kötze. Soyez les bienvenus à l'écoute de ce magazine.
Solche Töne der Demokratie habe ich bisher vermisst.
Demokratie hat viele Gesichter. Mal ist sie schlichter, dann demonstriert sie, dann wieder schlägt sie zu und lässt keinen in Ruhe.
Mit anderen Worten,
das ist Demokratie. Langweilig wird sie nie.
Ob es einem schmeckt oder nicht.
Das ist Demokratie.
La démocratie allemande a parlé par la voix de ses électeurs. Comme prévu, les conservateurs d'Angela Merkel sont arrivés en tête des élections législatives dimanche et la chancelière est assurée d'obtenir un quatrième mandat. Comme prévu aussi, l'AfD, l'alternative pour l'Allemagne, entre au Bundestag et pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, la droite identitaire et anti-migrant fait un score qui lui permet d'envoyer une centaine de députés au Parlement. Ce à quoi les Allemands s'attendaient moins, en revanche, c'est le score historique bas des sociodémocrates du SPD emmené par Martin Schulz, mais aussi la dégringolade chez les conservateurs. Angela Merkel l'a dit elle-même, elle s'attendait à un meilleur résultat pour l'alliance CDU-CSU. Désormais, il s'agit pour elle de former une coalition qui lui permette de gouverner le pays durant les 5 prochaines années. Elle a proposé d'ouvrir des discussions avec les libéraux du FDP, le Parti des Verts, et elle a aussi tendu la main au SPD, même si les dirigeants de ce parti ont d'ores et déjà affirmé qu'il voulait retourner sur les bancs de l'opposition. D'ici à ce que le nouveau gouvernement soit en place, cela pourrait donc prendre plusieurs mois. Nous aurons donc largement le temps d'en reparler. Au lendemain de ces législatives, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a présenté un rapport inquiétant sur la situation des Africains qui vivent en Allemagne. Le groupe de travail qui a séjourné dans différentes grandes villes du pays en février dernier pointe du doigt le racisme, les stéréotypes négatifs et le racisme structurel qui touche les personnes d'ascendance africaine. On écoute Mireille Fanon Mendes France, elle est membre du groupe de travail.
Déjà, ils sont face à une invisibilité. Les structures de l'État ne tiennent pas compte de cette population. Alors évidemment, on n'a pas le nombre exact, c'est approximativement 800 000 personnes, donc 1% de la population. Pour autant, les personnes qui sont de cette origine sont face à de l'exclusion, de la marginalisation. Certains d'entre eux ont même peur d'aller dans certains quartiers le soir. Donc bon, on est face à un certain nombre de faits qui prouvent que cette population n'est pas regardée à l'égalité des autres populations qui vivent en Allemagne. Et le racisme structurel, il est aussi, on peut le noter dans le fait qu'il n'y a pas de définition pour décrire le racisme particulier dont sont victimes les afrodescendants.
Vous l'évoquiez quand même, il y a aussi des efforts qui ont été faits ces dernières années. Les autorités allemandes ont quand même essayé de promouvoir la diversité culturelle, la richesse d'une Allemagne qui serait ouverte sur le monde. Qu'est-ce qui explique selon vous que les Africains ne semblent pas profiter de cette politique, ou est-ce que c'est que des mots?
Dans chaque État où on va, on le constate, il y a des efforts, il y a des actions qui sont faites, il y a une criminalisation plus importante de l'acte de racisme et particulièrement de celui d'afrophobie. Mais pour autant, il y a une criminalisation, mais ça ne va pas jusqu'au bout. Très souvent, on s'aperçoit que les victimes qui vont porter plainte, à un moment donné, il y a un basculement et deviennent potentiellement coupables. Vous parlez, par exemple, en Allemagne, des Herero et des Nama. La plupart des gens ne connaissent pas. Mais vous voyez bien, on se construit sur des non-dits.
Selon vous, tant que l'Allemagne ne travaillera pas sur ce passé, ce ne sera pas possible d'intégrer aujourd'hui les gens d'ascendance africaine?
Je ne dis pas que c'est une unique réponse, mais c'est une partie de la réponse. Pour être intégré d'ailleurs, pour vivre, c'est même pas être intégré, on n'a pas à être intégré. Le problème, c'est de la mise en relation, et cette mise en relation ne se fait pas. Il y a un non-dit sur cette histoire de la relation de l'Allemagne avec l'Afrique. Ce n'est pas uniquement en Allemagne, hein, c'est dans tous les pays européens ou occidentaux liés à la mise en esclavage et à la colonisation.
Vous avez présenté avec votre équipe ce rapport au lendemain d'élections législatives qui ont vu un parti populiste, l'AFD, faire une percée historique. Est-ce que vous pensez que la composition du nouveau Parlement, qui va compter environ une centaine de députés de ce parti AFD, est-ce qu'elle a de quoi vous inquiéter et quelque part à aller dans le sens de votre rapport?
Mais écoutez, lorsqu'on est dans des situations économiques et sociales tendues, même si la situation de l'Allemagne est économiquement un peu meilleure, n'empêche, il y a quand même un vent de populisme en Europe qui souffle. Et donc, on ne peut que craindre, effectivement, que l'arrivée au Parlement va tendre les choses et va certainement ne pas faciliter la révision éventuellement de lois ou le durcissement de certaines lois. Ça va favoriser, par exemple, la mise en place d'un plan d'action ou de donner des moyens à des organisations qui travaillent avec les afrodescendants et les Africains au quotidien, compte tenu que c'est quand même un enjeu important pour la société allemande.
Mireille Fanon-Mendès-France, membre du groupe de travail du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Et de son côté, le gouvernement allemand a pris note du rapport tout en regrettant qu'il ne cite à aucun endroit des exemples positifs et qu'il ne mentionne pas les progrès accomplis. Berlin mentionne notamment les efforts fournis par la police pour intégrer un personnel plus divers et pour empêcher la pratique du profilage racial qui consiste à interpeller une personne en fonction de critères physiques comme la couleur de la peau. Connaître les propriétés de la terre, les alternatives naturelles aux insecticides chimiques, apprendre à récolter ses propres graines. Dans un champ situé dans la vallée de la Beka, en Libye, une douzaine de réfugiés syriens apprennent les mille et une techniques de l'agriculture biologique, son histoire et ses vertus. C'est le collectif Bouzourna Juzourna, nos graines, nos racines, soutenu par l'ONG Sawa for Syria, qui dispense cette formation qui s'étend sur 3 mois. Ses membres, français, syriens et libanais travaillent sur un pied d'égalité afin de répandre la pratique de l'agriculture bio au Liban et demain peut-être en Syrie. Le reportage de notre correspondant sur place, Emmanuel Haddad.
Quelques 360 000 réfugiés syriens vivent dans la vallée de la Beka, à l'est du Liban. La majorité d'entre eux sont de la main-d'œuvre à bas prix pour les agriculteurs locaux, et ce dès le plus jeune âge. Mais sur le lopin de terre de 1200 m² tenu par le collectif Bouzourna Juzourna, qui signifie nos graines, nos racines, une poignée de Syriens et Syriennes viennent apprendre l'agriculture biologique aux côtés de Français et de Libanais. L'objectif de cette formation, qui s'étale sur 3 mois, est double. Dès aujourd'hui, permettre aux étudiants de trouver un emploi qualifié à la sortie, et demain, leur permettre de répandre les techniques de l'agriculture bio s'ils parviennent à rentrer en Syrie. La formation s'articule autour de plusieurs thématiques, des systèmes d'irrigation aux biopesticides, en passant par la récolte des semences paysannes. Lors du premier atelier, qui porte sur la terre, un agriculteur syrien explique les 3 différents types de terre, boueuse, argileuse ou sablonneuse, et leurs propriétés. C'est Walid El Youssef, agriculteur syrien, qui a découvert l'agriculture bio en arrivant au Liban.
Je suis venu au Liban à cause de la guerre et des conditions de vie difficiles en Syrie. Je travaillais dans l'agriculture conventionnelle avant de découvrir l'agriculture biologique. Grâce au projet Bouzourna Juzourna, nous avons l'occasion de pratiquer ces nouvelles techniques et dans l'école que nous avons créée, mon rôle est de les transmettre aux étudiants, des agriculteurs syriens et libanais qui travaillent main dans la main. On leur apprend l'importance de l'agriculture bio pour nous, nos enfants et l'environnement en général. Si on revient quelques décennies en arrière, les gens de la région pratiquaient l'agriculture bio car les insecticides et autres produits cancérigènes n'étaient pas encore répandus au Moyen-Orient. Mais depuis, 95% des agriculteurs utilisent des pesticides dans leurs champs. Ils ont oublié les anciennes techniques. Alors ici, nous reprenons ces techniques ancestrales et nous les modernisons afin de produire des semences paysannes et les préserver, car nous vivons une période de guerre et de catastrophe.
Parmi la douzaine d'étudiants attablés autour de Walid, des agriculteurs expérimentés, mais qui avaient tous l'habitude d'utiliser des pesticides, une pratique répandue dans tout le Moyen-Orient. Au fur et à mesure des cours, ils découvrent avec intérêt les bienfaits de l'agriculture bio.
Je m'appelle Yousra, je viens du village de Talbissi, situé dans la province de Homs. Je suis paysanne et étudiante en même temps. J'ai appris qu'il ne fallait pas utiliser de pesticides chimiques. Avant, nous utilisions les insecticides sans nous poser de questions, parce qu'il suffit de les mettre pour que les légumes poussent plus vite. Mais c'est nocif. Ici, on apprend des choses qu'on ignorait totalement en Syrie. Par exemple, je pensais que les vers de terre étaient mauvais pour mes plantes. Désormais, je sais qu'ils bénéficient à la terre, à la plante, à tous les niveaux. On suit des cours pour que, si on revient dans notre pays, on cultive là-bas avec les techniques apprises ici. La première chose que je vais faire en arrivant dans la campagne de Homs, ma maison est détruite, je vais acheter un lopin de terre, construire une maison de deux pièces, chambre à coucher et cuisine, et le reste, ce sera une terre que je cultiverai.
Originaire de Qusayr, ville agricole située à l'ouest de la Syrie, Razan espère y retourner bientôt et y répandre son nouveau savoir-faire.
J'aime l'idée que l'agriculture bio réduise les risques de maladies. Si on diffuse ses connaissances, peut-être qu'on peut former la nouvelle génération, lui apprendre à utiliser les ressources naturelles au lieu d'utiliser les produits chimiques. On apprend d'abord pour enseigner ensuite.
À l'issue de la formation, Buzurna Juzurna organise fin octobre une journée de la semence qui mêlera des agriculteurs bio aux consommateurs et aux travailleurs agricoles afin de resserrer les liens entre les acteurs de ce marché balbutiant dans la région du Levant.
Le reportage d'Emmanuel Haddad est à retrouver sur notre site internet dw.com/français, rubrique médiathèque. Bonne semaine à toutes et à tous, à la prochaine et tchuss.
Ciao, zikos, gratteux, gadjo, briseur de cordes, alterno, reconverti,
guitare héros,
soulageur de démangeaisons guitaristiques, astiqueur de manche,
pompeur de rythmique.
On dit qu'au record Guinness, la guitare vitesse, y'a pas un radar qui peut te flasher l'index. Doubleur de croche, tricoteur,
névrotique,
joyeux jazzeux, on voyage sur le riff.
On rêve de bohème, de route, de Romain Michel, mais en fait on s'appelle Romain Michel.
T'as la touche manouche, t'as les genoux.